Aujourd'hui, je vais peut-être un peu vous exposer le début de l'histoire et puis inclure donc tout l'aménagement extérieur qui était une partie en fait de cet énorme projet. Donc en fait, c'est deux coopératives qui se sont vues attribuer un terrain commun, donc Équilibre et Luciole, à deux tiers Équilibre et un tiers Luciole. Et puis, voilà, qui se sont mis du coup leur charte en commun, qui se sont entendus sur les choses principales. Et une des priorités, c'était la participation, donc au consensus. Ça veut dire que tout le monde doit être d'accord. Et pour ça, donc, on a mis en place une certaine quantité de choses et d'outils pour organiser le travail qu'on s'est partagé. Donc, il y a énormément de projets qui se sont créés en parallèle. Donc, on a choisi les architectes et des architectes qui étaient assez fous pour nous accompagner un peu sur nos idées et donc qui intégraient la question écologique, donc la question de l'énergie, la récupération d'eau. On a fait un système de toilettes qui récupère les eaux. Donc, on a un filtre, en fait, qui est au sous-sol, enfin qui est juste là dans le jardin qu'on verra tout à l'heure, je vous en parlerai mieux à ce propos. Et voilà. Et on avait aussi on avait un intérêt pour tout ce qui est aménagement extérieur et la diversité dans notre aménagement extérieur. Donc là, on est sur le toit. Donc on a décidé qu'on n'aurait pas d'appartement en attique, mais que le toit serait commun et qu'on allait le partager entre cette zone terrasse. De détente un peu, enfin voilà. Et puis les potagers et l'autre côté, c'est la partie énergie où il y a les panneaux solaires, mais aussi où vous verrez, il y a toute une autre sorte de végétalisation qu'on a aussi réfléchi dans l'idée de pouvoir attirer les insectes, de multiplier ces endroits en fait nécessaires à une ville selon nous, comme Roxane vous l'a expliqué. Donc nos systèmes de fonctionnement par groupe de travail, en fait, toutes les personnes qui sont intéressées pour travailler sur l'aménagement extérieur se mettent dans ce groupe-là. On avait un système de plénière tous les 10 jours où on fait valider à l'ensemble du groupe, donc ça représente 100 habitants, 60 adultes, notre projet au fur et à mesure de l'évolution. Pour le potager, par exemple, le groupe donc intéressé qu'on a appelé aménagement extérieur a fait des sondages pour savoir ce que les habitants voulaient. Et puis, on en est arrivé à ça, c'est-à-dire à constituer le bac le plus grand en fonction de l'espace disponible qu'on avait décidé pour ça. On a profité, donc, le fait que nous, on ait suivi le projet depuis le début, c'est-à-dire depuis l'excavation, enfin même avant, on a pu vraiment discuter avec les architectes au fur et à mesure de ce que la dalle pouvait supporter. On a profité aussi de la grue pour monter la terre. Voilà. Et donc là, on a un espace où on a décidé qu'on le divisait par nombre de personnes intéressées. Donc on divise le nombre de parcelles par personnes intéressées. Il y a des espaces qui sont... Donc après, il y a trois types de parcelles. Il y a des parcelles individuelles que la personne veut garder pour elle, pour faire ce qu'elle veut et se nourrir avec, en partie. Parce qu'on a des petites parcelles, hein, vous voyez. Il y a les espaces partagés, c'est-à-dire que les gens se mettent ensemble et associent leurs parcelles pour en faire des plus grandes, donc pour partager l'arrosage, pour avoir des plus grands espaces. Et puis il y a l'espace aussi collectif où on sait ce qu'on plante, on ne sait pas ce qu'on récolte. Ça, c'est assez important, hein, parce que sinon, il y a, enfin, je ne sais pas si vous partagez des potagers, mais c'est un peu la question un peu compliquée. C'est qui mange quoi et quand, en fait. Donc voilà, on a résolu ça comme ça. Donc, on est... Du coup, là, on est un peu l'exemple des amateurs. Enfin, il y a quand même des gens hein, qui ont une expérience de potager parce qu'ils en ont eu un. Donc, il y a quand même des échanges par rapport à ça. Mais personne n'est spécialiste pour ça. Donc, nous, on expérimente et on apprend au fur et à mesure. Hein. Au fur et à mesure de ce que chacun sait, on échange un peu... Là, on a un habitant qui vient d'amener de la paille, un gros stock de paille. Donc, il y a plein de gens qui se sont servis pour en mettre, par exemple. Parce que voilà, un des inconvénients quand même des potagers sur le toit, c'est qu'on n'a que 40 cm de terre et elle s'assèche vite. Là, on est très exposé. Donc, nous, ici, on cherche des moyens pour prolonger, en fait, Ouais, pour que la terre reste humide le plus longtemps possible, en fait. Je ne sais pas si à ce stade-là, vous avez des questions. Après, on va peut-être juste jeter un œil à côté.
Il y a des abeilles, donc tu nous avais montré l'autre jour aussi.
Il y a aussi des abeilles. Donc voilà, ouais, on commence les abeilles. On commence aussi, donc on a aussi des hôtels insectes en bas. Enfin, chacun un peu, là, c'est des choses qu'on essaye par-ci, par-là. On a aussi une petite grainothèque qu'on vient d'inaugurer. Donc ça, c'est un peu aussi pour qu'on observe un peu mieux la production de graines qu'on peut faire. C'est assez complexe, en fait. Donc, il y a pas de spécialistes. Donc, on est allé voir un peu à la Saint-Jean, leur charte. Et puis, on va... Voilà. On a déjà pas mal de tomates qui viennent de ce toit. Il y a déjà pas mal de choses qui viennent de ce toit. Et puis, sinon, ben, dans l'idée de l'aménagement dans son ensemble, après, on va descendre et on en reparlera en bas. Mais il y a différentes zones. Donc, il y a la zone de la prairie fleurie, là où on a mis pas mal d'espèces aussi... De plantes qu'on laisse grandir et qu'on laisse tranquilles. L'idée, c'était à la base d'avoir essentiellement des plantes indigènes et comestibles. Moi, mon grand rêve, c'était d'avoir toute ma pharmacopée ici et de quoi me nourrir et en légumes, mais aussi en fleurs. Enfin, moi, je me soigne beaucoup avec ça, ou en différentes herbes, avec différentes herbes. Donc, on a énormément de choses comme ça, comestibles, soit pour nous, soit pour les animaux. Et puis il y a des choses qui sont rajoutées en plus, donc on n'est plus exclusivement dans l'indigène, parce qu'en fait il y avait aussi tous les habitants qui arrivaient avec des plantes de chez eux, de leur jardin auquel ils tenaient beaucoup. Donc il y a des choses qui se sont plantées par-ci par-là, puis ça a créé une variété supplémentaire, mais que voilà. Là il y a 40 cm. Ben c'est limité dans le sens où c'est ce qui est censé suffire, ouais, pour un potager, mais c'est un peu la limite. Enfin 30-40 cm, c'est un peu la limite. Donc effectivement, il y a cet assèchement, hein, qui fait qu'on doit arroser pas mal. Donc là, on n'est pas dans une super logique écologique, le fait qu'on doit utiliser l'eau. Donc là, il se trouve que nous, on peut récupérer notre eau, donc c'est pas mal. Et puis on renouvelle, on renouvelle la terre aussi.
Il faut plus de compost pour cette terre.
Ouais. En tout cas, pour l'instant, on nourrit la terre, voilà, on fait des apports. Ouais.
Puis le paillage dessus, si vous faites une belle couche de paillage, ça garde l'humidité, non ?
Ouais.
C'est ce que vous faites.
Ouais, c'est ce qu'on fait.
Est-ce que le fait d'être limité en profondeur de terre, ça oblige à être limité en quantité de plantes par parcelle, pour justement être moins...
Ben, ça, on expérimente un peu. En fait, si on fait un tour dans le jardin, on verra que chacun a choisi des choses... Enfin, il y en a qui ont vraiment fait des buts pour augmenter la hauteur, donc là oui, ça les limite sur la surface. Nous, on a surchargé les trucs l'année dernière parce qu'on était tout ouais, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Puis ça s'est pas trop mal passé aussi.
D'accord.
Donc après, là, c'est seulement la deuxième année. Hein, donc voilà, nous, on habite ici depuis 2 ans et demi. Hein.
Mais c'était aussi pour par rapport à l'évolution de la ville. La ville monte toujours, enfin, puis. Des espaces verts, on voit le parc là, il est un peu entouré d'immeubles qui dépassent déjà le fait des arbres. Mmh. Et on se dit, ben, c'est une façon de laisser de la lumière pour les plantes en cultivant le sommet des maisons, en fait, les toitures. Parce qu'on laisse plus, on laisse moins de lumière pour la terre qui est en bas.
Ouais.
C'est s'adapter à l'évolution de la ville.
Moi, je pense que la pleine terre aussi, c'est essentiel en même temps. Il ne faudrait pas que la culture des toits justifie le fait qu'on sacrifie la pleine terre.
Oui,
c'est vraiment parallèle.
Oui.
Un potager en pleine terre aurait pu être aussi bien, voire mieux, parce qu'on a l'espace, sauf qu'on a décidé de faire plein d'autres choses en bas. Donc voilà, nous, c'est un choix qu'on a fait, mais... Mais ça ne devrait pas justifier une politique de « on supprime les parcs » ou « on supprime la pleine terre » pour
c'est
moi.
C'est ça. Il y a des choses que vous avez faites en bas, vous ne pouviez pas les faire sur le toit.
Alors, il y a la steppe qui prend... Alors, tout notre système d'épuration prend beaucoup de place. Et donc, vous verrez tout à l'heure, il y a la steppe qui est visible, qui prend beaucoup de place. Donc là, c'est tous les filtres, paille, verre de terre et bois, hein, qui filtrent l'eau de récupération. Et puis, il y a encore tout le filtre minéral qui n'est pas visible, mais qui prend pas mal de place en sous-sol. Donc en fait, le toit s'infiltre là dans ces dalles. Le toit, il est légèrement incliné en dessous, comme ça, vers le sud. Vers le sud, on a une noue, donc c'est une sorte de ruisseau en argile, comme ça, qui récupère cette eau-là, donc qui va de l'ouest vers l'est, comme ça, la noue. Et puis là, on arrive dans une cuve de 26 000 litres d'eau. dans laquelle se déversent aussi nos eaux usagées, donc les eaux grises et les eaux des toilettes, qui sont filtrées dans notre steppe qui est là visible. Donc c'est un filtre paille, vert de terre, et bois. Et ensuite, cette eau-là, elle est conduite dans un filtre qui est minéral. Là, il y a toutes les bactéries en fait, qui font leur travail et qui rejoint cette cuve de 26 millilitres. Donc, l'eau de récupération et l'eau des toilettes se rejoignent et réinjectées pour l'eau des toilettes et l'arrosage.
J'ai une question par rapport à... Vous avez évoqué la sécheresse, mais à l'inverse, quand il pleut très fort, il y a 40 cm de terre, on sait gérer le trop plein d'eau.
Ben en fait, là, on n'a pas de problème parce que ça va dans... Enfin, en fait, ça, on n'a jamais... J'ai encore jamais vu de problème. Par exemple, samedi, ici, il n'y a pas eu de dégâts.
Le travail a été fait en accord avec les architectes. Ils étaient informés de cette extension-là. Ce que je reparle là, c'est que l'infrastructure est du coup adaptée dès le départ ou c'est après un ajout?
Non, on a fait avec les architectes. Donc, comme quasiment tout, en fait. Donc, ben là, par exemple, le choix des architectes, on n'a pas fait... comment dire? Je crois qu'on dit appel d'offres. On a rencontré plusieurs bureaux d'architectes qu'on a choisi au feeling. En fait. On partait d'une page blanche pour l'immeuble et que chaque habitant arrivant pendant cette période-là en fait, aurait son mot à dire au consensus. Donc on a dessiné les plans ensemble. Donc on a choisi ATBA pour ça, parce qu'ils étaient assez fous pour déjà se plier à ces contraintes-là, de gérer, de devoir avoir comme client un collectif qui fonctionne au consensus avec les délais que ça peut nécessiter. Et puis, en plus, ben voilà, nous, on avait vraiment envie d'y aller avec certaines idées qu'on ne sait pas au début si elles sont réalisables ou pas. Puis, voilà, l'idée, c'est que quelqu'un a une idée, tout le monde le suit. Enfin, essaye de porter cette idée jusqu'à l'irréalisable, en fait. Donc, qu'elle soit budgétaire, on avait notre enveloppe budgétaire entre les mains. Hein. Ça peut être sérieux, parce qu'on n'a pas l'habitude, en tout cas individuellement, enfin, en tout cas moi, mais la plupart des gens, de gérer cette somme-là. Donc là, évidemment, les architectes, ils sont très, très présents pour nous orienter aussi dans ces coûts. Enfin, en tout cas, pour...
Il faut aussi dire que quand on parle de ce type de poids, et surtout quand on imagine qu'il y a des pluies qui augmentent aussi le poids des toitures, il faut forcément passer par des experts comme des architectes. Il ne faut pas improviser parce que le toit doit être pensé en conséquence. Donc il y a tout ce côté fait, qui est assez complexe. C'est aussi la sécurité des toitures protégées qui sont ouvertes aux habitants, aux enfants, etc. Donc ça, c'est vraiment une question
c'est
qui
ça.
Doit être vue avec les experts.
Avec les architectes. Donc dans le budget, c'est clair que c'est un coût supplémentaire hein, de vouloir utiliser un toit pour tout, justement ce que tu viens de dire, la question des barrières. Et puis la dalle. Donc la dalle, elle a été prévue par les architectes suite à cette discussion pour porter sur tant de surface, tant de poids de terre, plus ce qui est prévu habituellement.
Ce qui est intéressant dans cette toiture, c'est qu'on retrouve différents espaces. Donc il y a le potager en plein terre, il y a la partie qui regroupe un peu les habitants voilà, sur la toiture qui peuvent profiter de cette vue aussi. Voilà. Et aussi l'espace pour les panneaux photovoltaïques. Qui sont mélangés à une prairie. Toutes les surfaces qui sont toitures, soit cette inclinée ou la toiture en plein, c'est quand même une prairie en plus. Donc ça, c'est très important comme concept de favoriser ouais. Cette biodiversité à côté.
Avec, vous verrez, des sortes de troncs d'arbres aussi. Enfin, voilà, on a récupéré des choses pour faire
des papillons, on voit ouais. Des abeilles. On voit...
Donc voilà, après, il faut réussir à trouver l'équilibre aussi entre ces plantes et les panneaux. Hein. Mm-hmm. L'année dernière, la première année, on avait plein de coquelicots, c'est juste magnifique. Mais par contre, ça fait trop d'ombre pour les panneaux. Donc on doit aussi nous-mêmes intervenir un peu sur cette végétalisation pour sélectionner et en fait enlever les plantes qui risquent de monter trop. Ou celles qui se colonisent trop. Enfin là, pour l'instant, on a quand même un œil. Hein,
Vous devez quand même ouais. Intervenir.
Vous voulez peut-être aller voir. Dans nos appartements, on a l'air qui rentre de l'extérieur. Qui se chauffe à la température des appartements, qui est censé être autour de 20, et puis qui est extrait et qui arrive ici sur le toit. Ici, cet air, en fait, il chauffe l'eau dans un circuit de petit diamètre, comme ça, qui récupère la chaudière en sous-sol. Et l'eau qui est chauffée dans la chaudière au sous-sol, enfin, pas la chaudière, du coup, le ballon d'eau chaude, remonte pour chauffer les sols. Chauffage au sol de ce système-là. Donc après, on a besoin des apports supplémentaires pour les périodes les plus froides, par exemple. Et là, actuellement, on a du gaz pour ça. Et après, on va passer au CAD. Madame.
Le millepertuis, tu es venue toute seule ou
vous l'avez? Non, on a planté. Alors, la sauge, je crois qu'elle est venue toute seule parce que moi, je ne me rappelle pas l'avoir mise. Mais il y en a pas mal. Mais oui, enfin, ça a été un mélange de graines. Et puis, mais le millepertuis, il monte un peu trop. Il faudrait qu'on l'aille le mettre en bas. Il y en a aussi un peu en bas. Mais...
Oui, je disais par rapport à l'électricité, est-ce que c'est bien d'avoir des plantes à côté?
Eh bien, c'est là, en fait, qu'on doit les... Là, on arrive au moment où on doit les désherber.
Oui, c'est ça.
Ce week-end ou le week-end prochain, en fait. Ouais. Celles qui font de l'ombre, en fait. Voilà, mais elles vont pas exactement où on veut, mais bon, ça, c'est parce qu'elles ont un peu leur propre vie. Mais on aimerait bien qu'elles aient hautes, elles aillent là-bas. Et maintenant, elles se mettent là. Alors,
Elles vont où elles veulent, en fait.
C'est ça.
Peut-être que vous devrez mettre des cailloux à la longue autour.
Ben, peut-être, on regarde un peu, mais c'est possible que ça nous demande trop de travail. Pour l'instant, on intervient 3 fois par année. Mmh. On se met à 3 ou 4. Et puis c'est assez rapide quand même. On a aussi ce qu'on appelle les grandes corvées, donc le terme c'est un peu un joke, mais c'est ces journées de travail qu'on fait tous en commun. Et là on fait des gros chantiers, et puis par exemple ça peut être aussi fait pendant ce moment-là.
Au niveau énergétique, il y a un moment où l'hiver vous pouvez pas être autosuffisant, je pense. Mais est-ce que dans un futur, ce sera possible?
Alors, on travaille au niveau de l'électricité. On est mieux que ce qu'on avait calculé au début. Au niveau du chauffage, là, il y a encore des ajustements à faire. Donc la première année, c'était vraiment observation. La deuxième année, c'était réglage. Et puis la troisième année, on va encore voir observation et réglage. Mais la totale autonomie, on ne l'a jamais vraiment prévue. Enfin, disons qu'on aimerait, mais le système ne le permet pas.
Qui c'est qui s'occupe de couper l'herbe?
Ben, par exemple, moi, je suis inscrite pour faire ça.
Ah, d'accord.
Donc, en fait, c'est tout notre système de participation qui est encore un autre pan assez complexe où on ne veut pas s'imposer des heures de travail, mais en même temps, voilà, vous avez compris, ça nous demande du temps pour la décision et pour l'action, quoi, pour l'entretien, pour les espaces communs. Voilà, donc il y a des personnes ici qui font une conciergerie, mais ça correspond à des espaces comme l'entrée par exemple ou le couloir du troisième. Après tout le reste c'est tous les habitants qui s'organisent. Est-ce qu'on descend peut-être pour aller voir le jardin en bas?
Oui.
Ici donc les espaces sont toujours adaptés aux nécessités aussi de l'ensemble du projet. Par exemple là donc c'est la noue, vous la voyez pas, mais c'est tout ce qui est au pied de l'immeuble, donc c'est cette bouille en fait de récupération d'eau. Donc toutes les plantes qui sont plantées là, c'est celles qui sont bien les pieds dans l'eau, on va dire. Et puis on a cette structure en béton, en fait, est censée être végétalisée. Donc vu qu'on avait notre budget en main, il y a des choix qu'on a fait, hein. On a choisi des matériaux assez chics, comme vous avez vu qu'il y avait du bois partout, des parquets au sol. Mais on a aussi choisi d'avoir un béton de type 3, ce qui se fait absolument pas, hein, quand il est visible en général. Donc c'est le béton le moins cher. Donc nous, on a décidé à l'intérieur qu'on allait vivre avec ce béton moins parfait, avec ses trous et ses coulures. Donc, voilà, on allait s'habituer, ceux qui ne s'habituent pas en pain chez eux, hein, c'est aussi un choix possible. Mais du coup, on a gagné des centaines de milliers de francs en faisant ce choix de béton, comme on a gagné des centaines de millions de francs sur d'autres choses aussi. C'est nous qui compensons pour mettre justement l'argent dans des innovations qu'on avait envie de faire. Et du coup, voilà, là on a donc ces plantes qui vont petit à petit monter. Donc on a fait du rappel pour accrocher ces cordes là il n'y a pas longtemps. Là on a un terrain un peu spécial. Hein. Normalement, c'est le passage pompier obligatoire, hein, qui devrait être bitumé. Et puis nous on voulait végétaliser. Et du coup, ça prend un peu moins qu'ailleurs, donc on voit bien notre limite. Mais donc, on a très très peu de terre là. On a des cailloutis en dessous, enfin, on a du caillou et très peu de terre. Et on est en train de réexpérimenter un nouveau truc. On persévère avec cette idée de végétaliser notre passage pompier.
Du lupin.
C'est quoi
les lupins? Des légumineuses. Planter des légumineuses.
Mais ça, il y a assez. Parce qu'il n'y a que ça de terre.
Ouais, mais ça.
Ça marche?
Je crois, ouais. Il faut essayer.
Ok, on peut essayer.
Enfin, ça, c'est une sorte, le petit trèfle
ouais,
jaune,
c'est, là,
c'est de la même famille.
Alors, il ne faut pas que ça soit des choses à cultiver, si c'est le passage pompier. Que ça soit des choses.
Disons qu'il faut qu'on accepte. Enfin, voilà.
Ça va nourrir en tout cas la terre. Ouais.
Et puis, du coup, voilà, on a notre terrain de pétanque là. Et puis peut-être que voilà, si ça, ça marche pas ici, on aura un terrain de pétanque de compétition qui fera. on aura 4 terrains de pétanque parce que ça, ça marche bien du coup.
Tu voulais voilà. Des lapins aussi ?
Ouais, des cochons d'Inde. Il y a un projet poule, mais ça, ce sera pour après parce qu'on doit gérer les projets un peu au fur et à mesure. Sinon, on est un peu tous débordés. Là, on a fait cette fontaine, donc ça, ça faisait partie. Donc pour aménager cet espace-là, on s'était fait au moment du dessin des plans un week-end. On était venu avec les aménagements extérieurs et chacun inscrivait ses rêves, en fait, ou dessinait ses rêves, donc adultes et enfants. Et après, donc, le groupe qui s'occupait de ça a mis en commun les choses et on a essayé à peu près de tout réaliser. Ça a évolué au fur et à mesure. On n'a pas pu tout faire. Par exemple, il y avait des envies de faire des labyrinthes qui partent de là et qui arrivent au cinquième. On n'arrivait pas à faire. On pourrait encore réfléchir à ça, mais bon, voilà. Il y avait des désirs d'enfants qui étaient un peu compliqués à réaliser pour le fait. Mais en gros, voilà, on a aussi pu bénéficier de... Enfin, vu que justement on est là depuis le début, on a énormément utilisé les matériaux d'excavation. Donc par exemple, toutes ces pierres de moraine. Là où normalement on évacue tout, ça demande un énorme travail et puis on ramène les choses. Là, on a vraiment les pierres qui étaient dans le sous-sol. Tout comme la terre, en fait, une partie de la terre qu'on a utilisée pour faire nos murs. Donc c'est tous les murs, en fait. La grande façade, là, sud et la façade nord, c'est en paille. Et en fait, c'est la matrice un peu de notre immeuble. Ces bottes de paille qu'on a utilisées donc pour l'isolation, qu'on a fait des semaines de chantier, hein, les habitants, pour remplir des caissons de bois en fait qui étaient faits sur mesure de ces bottes de paille.
Mais ça a été recouvert de béton ou pas ?
De chaux. Alors en fait, les caissons de paille pour toute la façade nord, on les a fait en sous-sol et ils ont été placés par la grue. Ceux-là, ils ont été faits sur place. L'extérieur, ça a été fait à la chaux et l'intérieur à l'argile.
D'accord.
Donc un mélange paille, terre, argile. Donc une partie de cette terre est prise a été utilisée pour comme matériau.
Mais vous avez utilisé des matériaux en faisant cette approche-là ?
La construction en paille et par bottes, donc caissons comme ça, ça existe hein, depuis. Ça existe depuis un moment. C'est la CARP à Lausanne hein, qui nous a accompagnés pour ça. L'innovation, c'est de le faire sur 6 étages. Ça s'était jamais fait, hein, en tout cas, qu'on le sache. En fait, qu'on le sache. Après, ce mode de construction en paille recouvert d'enduiteur, ça se fait en général plutôt pour des villas, en fait. Mais c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et qui est très intéressant thermiquement. Donc, on garde énormément la fraîcheur l'été. Moi, avant, après le travail, je me ruais dans le Rhône. Et puis maintenant, j'hésite entre le Rhône et chez moi parce que c'est plus frais ici. Quoi.
La noue, elle est où ?
La noue, elle est au pied des poteaux, là. Donc, en fait, c'est ça.
On la voit par dessus.
Là, c'est la grille.
C'est du béton. C'est du béton ici, effectivement, pour le passage. Du côté, là, c'est béton. Puis sinon, c'est de l'argile.
Ah, elle passe là-dessus.
C'est ça.
C'est
un truc qui est comme ça.
Ah, vous l'avez couvert.
On a mis les plantes, ouais, qui...
Parce que ça va dire qu'elles prennent directement l'eau, la racine dans l'eau.
Ouais. On a mis ces plantes exprès, c'est un choix de plantes d'ombre.
D'accord. Ah ouais, donc en fait, elles sont dans l'eau. Puis c'est...
Donc après, pour la haie, on a choisi de mettre des comestibles. Donc on a des petits fruits, des noisettes, des cassis. Donc voilà, toute la haie, il y a du sureau, enfin des choses, si possible, utiles en tout cas pour nous, pour les animaux. Hein.
Là, l'idée de la butte, c'était parce que vous aviez envie de garder une butte et un aspect un peu sauvage au jardin.
Oui, ça, c'était par exemple une sorte de réalisation d'un des dessins qui avait été fait dans le plan. Et puis, c'était la possibilité, on peut aller voir, de faire cette fontaine qui descend comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait par les habitants lors de ces journées de travail communes. Le dessin, pendant plusieurs semaines, on a creusé les bois.
Ah d'accord, c'est la cascade.
Ça, c'est l'endroit préféré des enfants.
Ah, j'imagine, ouais.
On a fait une tortue.
Il y a pas de cascade.
Qui est un peu bouchée. Mais voilà, donc en fait, en gros, plusieurs semaines avant, on a creusé les troncs. Enfin, certains habitants ont creusé les troncs. Après, il y avait cette équipe qui a fait le... On a été plein à faire ça ensemble. Et puis récupérer les galets à la harve, récupérer ça chez les gens. Et puis le dessin, en fait, les dessins de la fontaine ont été faits par les enfants. Donc il y a eu plein de dessins faits par les enfants pour à quoi on veut que ressemble la fontaine. Et puis les enfants voulaient un animal totem. Et puis on a choisi cette tortue-là comme animal totem. Ça sort aussi d'un dessin d'enfant. Alors la tête, elle est là. C'est vrai que l'herbe, elle a poussé.
Ah,
mais
voilà.
Ouais, vous êtes en train d'écraser sa patte arrière. Voilà, après, ben...
Vous compostez.
Ouais, alors on a trois composts. Alors on a la steppe, ça c'est un énorme compost. On a le compost sur le toit, je ne vous ai pas montré. Un lombricompostage sur le toit. On a un peu occupé le jardin des voisins là pour faire un autre compost qui est divisé en quatre. Donc il y a une partie de la terre de la steppe, puis il y a nos différentes. Alors on est en train de le réorganiser.
Ouais.
Et puis.
C'est tout le monde qui avec le nombre d'habitants que vous avez.
C'est du travail.
Ouais,
mais c'est un peu intéressant. Ouais. Donc là, on est en train de répartir l'état. Donc on a des silos. On a deux silos, puis après on a l'état. Puis on a les branchages, la tombe de pelouse. Voilà. Puis on a aussi quand même les conteneurs de la ville.
Oui.
Ce qui est plus facile à gérer quand les gens ne veulent pas vraiment le faire.
Oui.
Et puis aussi, on a énormément de liserons. Hein. Qu'on doit enlever parce qu'ils étouffent vraiment nos petits fruits.
Oui.
Et puis par exemple ça nous arrange d'avoir les conteneurs de la ville parce que ça repart partout.
Mm-hmm.
Donc il y a certaines choses, voilà, on utilise aussi bien. Puis on a aussi la brasserie ici. Hein.
Mm-hmm.
Donc la bière du Niton, elle est faite ici.
Mm-hmm.
Donc là tout le houblon aussi qui va au compost.
Les voisins, ils sont plutôt curieux, jaloux, indifférents?
Alors, ces voisins ne sont pas encore installés.
Bientôt.
Donc là, par exemple, on a deux immeubles. Hein. On a deux coopératives ici et deux coopératives ici. Donc vous pouvez voir la différence entre les choix qu'on a faits. Nous, à deux coopératives, à faire un immeuble. Et puis là, ils ont choisi vraiment de séparer l'immeuble en deux. Et les voisins, ben, y en a qui sont très contents. Et donc il y a le bistrot de Trois Plis qui crée vraiment ce contact avec le voisinage. Et puis il y en a qui sont sûrement moins contents. Il y en a qui, ouais, c'est un peu, on a, voilà. Il y a eu un jeune qui a fait un documentaire sur le voisinage pour sa Mathieu, et donc c'était très partagé.
Ah, ouais. Il n'y a pas tout le monde qui...
Non. Il y a, parce que c'est des maisons, c'est difficile hein, pour les gens. C'est difficile pour les gens d'ici. Il y avait des maisons avant, les gens ont dû partir. Partout, il y avait des maisons. Donc là, il y a eu des jeunes qui habitaient dans la maison de la Cigu, qui ont fait un énorme travail avec le voisinage, et c'était génial. Parce que ça nous a vraiment bien amenés, bien accueillis. Nous, on s'est mis tout de suite en lien avec eux. Donc, il y avait un énorme panneau où les gens pouvaient mettre leurs souvenirs. Il y avait plein de choses qui ont été faites. Parce que voilà. Enfin, moi, j'ai aussi beaucoup habité de l'autre côté. C'est-à-dire dans ces maisons qu'on détruit. C'est pas simple du tout. Hein.
Non, mais moi, je disais, des gens qui sont là, ils sont contents.
Oui.
C'est ceux-là
que
je disais. C'est pas...
Les habitants, ouais.
Les habitants. Il n'y a pas des gens qui ne sont pas contents.
Non. C'est quand même une expérience qui nous convainc tous. Ça, c'est sûr.
Ils aiment, voilà.
Ouais.
C'est pas qu'il y a des gens qui sont.
Oh, le lundi, ils n'aiment pas trop aller au travail.
Ouais, voilà. Mais sinon,
le lundi, il y a la cantine des enfants, tout le monde est là. Non, pas tout le monde est là, mais voilà. Je ne sais pas si vous avez encore des questions.
Moi, juste pour concernant le consensus sur les décisions, est-ce que ça, c'est pas durablement difficile? Parce qu'effectivement, ça nécessite quand même des efforts, de la conciliation, le fait de se remettre en question, le fait de... Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, selon toi, va...
Ça, c'est le plus long chantier. On a donc eu cette phase-là de recherche de terrain, de dessin des plans, de construction, mais le plus gros chantier, c'est celui-là. C'est d'habiter tous ensemble et puis de trouver les outils pour communiquer si on veut tenir à ce consensus. Donc, évidemment, on est toujours tenté de le lâcher, en fait. Parce que le vote, c'est plus simple. On n'utilise pas le vote. Hein. On a utilisé le vote, je crois, sur trois décisions... à main levée, à la majorité. Donc évidemment, pour fonctionner au consensus, il faut intégrer le fait que le consensus est complexe et puis qu'il a aussi certaines limites et pallier ses limites avec d'autres outils, en fait, avec d'autres systèmes. Et ça, c'est un travail d'attention à long terme, un travail de motivation. Il faut que les gens soient assez convaincus ou qu'en tout cas, les gens convaincus arrivent à maintenir, en fait, cette idée-là comme une idée importante. Donc, ça demande un peu d'énergie, ouais.
Ça implique un peu d'éducation populaire, dans le sens où pas tout le monde connaît ce processus-là, pas tout le monde l'a déjà mis en pratique.
Ouais.
Et du coup, ça peut faire peut-être des mauvaises ou des bonnes surprises.
Ben, en fait, ça s'est installé ici petit à petit, puisque c'est des gens qui se sont rencontrés petit à petit au fur et à mesure du projet. Donc, l'idée du consensus, elle est venue assez vite, donc le non-vote. Mais après, comment on gère ça? Donc après, il y a plein de choses... au niveau de l'organisation des réunions, par exemple, là actuellement, chacun à son tour, chaque foyer à son tour va faciliter une réunion. Il y a plein de rôles dans cette réunion. Il y a la facilitation, donc la distribution de la parole. C'est la personne aussi qui va gérer les points. Chacun, en fait, en tant qu'habitant. Je ne sais pas si je rentre dans ces détails-là.
Non,
ou
non,
pas.
Mais c'est intéressant.
Donc, en fait, on a des fiches, là, dans la salle commune qui correspondent à des dates de réunion. Et chaque habitant va marquer son point, la priorité de ce point, le temps qu'il estime avoir besoin pour discuter ce point, et puis son nom ou qui va représenter ce point. Après, il y a quelqu'un, donc on est au fur et à mesure les uns après les autres, quelqu'un de l'immeuble, un foyer de l'immeuble qui va prendre cette fiche, calculer le temps, voir si ça rentre dans nos 2 heures de réunion ou si ça dépasse. Si ça dépasse, alors choisir en fonction des priorités que l'habitant a choisi de mettre. Et puis voilà. On va dire. De base, c'est ça. Après, on distribue les rôles dans la réunion. Donc, la personne qui garde le temps en fonction des temps qui ont été annoncés pour tel point. Si ça dépasse, alors on décide que ça devra être reporté à une autre réunion parce que c'est un gros truc. Ou alors, on peut dépasser si on se rend compte qu'une décision peut être prise avec 10 minutes supplémentaires ou même un quart d'heure supplémentaire, mais que la décision sera prise. Donc, on acte un peu les décisions. On dit là, hop, décision. Donc, après, on a classeur de décision. Et puis, pour chaque décision, il y a une personne ou un groupe de personnes qui doit mener plus loin un travail qui doit amener à une décision. Donc, la personne qui va mener, faciliter la réunion, doit avoir un œil sur ce classeur pour voir si ce travail a été fait et potentiellement contacter les personnes pour dire oui, ça a été fait ou non, on a besoin d'un délai parce qu'on a besoin de passer par telle et telle étape. Après, dans les rôles, il y a donc la personne qui va inscrire, justement, suivre ses décisions, inscrire ses décisions. La personne qui prend les PV, on a des PV pour toutes les réunions depuis le début. Donc on a un site en interne sur lequel on échange énormément. On a 2 sites en interne. On a un site pour toutes les communications en interne, tous les échanges, tous les blabla, tous les documents et tout ça, les documents, des plans, enfin tout. Et on a un autre site pour gérer le covoiturage. En fait. Et puis on a un autre rôle pendant ces réunions, c'est la personne qui scrute. Moi, j'aime beaucoup ce rôle. Donc ça, c'est hors PV, mais il y a tout le temps une personne qui scrute et qui doit dire un mot à la fin de la réunion. Et ça, c'est justement la personne qui doit faire attention qu'on est toujours en train de respecter ce qu'on a choisi ensemble, donc dans le fonctionnement, qu'on n'est pas en train de s'égarer, qu'on n'est pas en train de retomber dans « c'est les mêmes qui prennent la parole, il y a une personne qui a plus d'informations, donc qui parle plus, là, il y a eu un peu de tension ». Enfin voilà, donc cette personne qui scrute, en fait, elle a ce rôle-là. En général, il n'y a pas grand-chose à dire et tout d'un coup, hop, quand on voit qu'on est en train de rentrer, de glisser, en fait, de s'écarter un peu de cette voie qu'on a choisie, alors il y a moyen d'intervenir et de prendre la parole dans ce rôle-là. Et puis ensuite, ben, il y a encore plein d'autres systèmes. Quand on est dans des terrains épineux, donc il y a des cas qui sont trop complexes pour être décidés comme ça en consensus. Il y a des cas, par exemple, ça va être l'organisation des tâches et la participation, sachant que la participation n'est pas obligatoire, sachant que en même temps, il y en a qui auront la sensation de faire beaucoup trop, et puis que c'est un énorme bateau, et puis il y en a qui ont vraiment cette sensation de porter trop. Parce
qu'il y a aussi... Elle n'est pas obligatoire.
Elle n'est pas obligatoire. Alors ça se discute depuis longtemps, actuellement, elle n'est toujours pas obligatoire. Et puis, mais quand même, il faut quand même répartir.
D'accord. Voilà.
Donc là, on a eu besoin de rentrer plus loin dans un jeu de facilitation avec une professionnelle de la facilitation pour mettre au point un système de participation en fonction de notre temps disponible sur des tranches de 3 mois. Parce qu'on voilà, on considère qu'on ne peut pas non plus mettre le même temps dans l'immeuble parce qu'on a tous nos vies, quoi, et qu'on est sur vraiment du long terme. Et donc on a des temps disponibles pour cet immeuble qui sont différents et à nous de choisir quel temps on peut mettre dans cet immeuble. Voilà, donc ça peut aller de 0 ou 1 à 20, enfin, c'est un peu du prix libre de la participation.
20 heures, vous dites.
On peut aller à 20 par mois. Hein.
20 heures.
Ou plus,
mois.
Hein. Moi je suis facilement à ce temps-là, des fois.
D'accord.
Je suis curieuse de nouveaux participants, nouveaux habitants, ça se fait facilement ou...
Bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment eu de nouveaux habitants depuis le début. Après, donc, au niveau des coopératives, vu qu'on est 2 coopératives, on a 2 systèmes d'attribution différents. Donc, Équilibre a choisi de s'agrandir. Donc là, il y a énormément de demandes, il y a énormément de membres. Et puis donc là, c'est toute une procédure. Il faut lire la charte, être en accord avec la charte. Et après, c'est par ancienneté, par taux d'occupation. Donc plus on est nombreux dans un appart, plus on a de chance de l'avoir à ancienneté égale. Et puis après, c'est par rapport aux revenus, en fait. Moins on a de revenus, plus on a des chances d'accéder. Hein, parce qu'on est là dans du HBM, hein, du Habitat Bon Marché. Et puis Luciole, on n'a pas du tout décidé de s'agrandir, donc on est 14 foyers ici. Et nous, on parraine ou marraine des nouveaux, chacun une fois dans notre vie lucioloise, et on passe notre tour. Donc chacun est amené à inviter quelqu'un une fois, et c'est les uns après les autres, mais vu que les autres, les nouveaux arrivent, ben ça passe au tour des nouveaux. Voilà, ça c'est comme ça que nous on a résolu cette histoire, parce qu'on ne peut pas du tout gérer des listes d'attente. Enfin, on a décidé de ne pas le faire. On a vraiment... Donc ça arrive au fur et à mesure des disponibilités d'appartements, qui depuis qu'on habite en fait...
Le contingent d'appartements et leur taille, c'est des 3 pièces,
alors ça va du 3 au 6 pièces. Et puis leur taille, 3 pièces c'est à peu près 50 mètres carrés, et puis les autres je ne sais pas. Et le truc un peu particulier aussi, c'est qu'on a décidé donc, de faire les appartements tous pareils. Donc ça, c'était la contrainte de base sur laquelle on est parti avec les architectes. Donc tous les apparts donnent vers le sud à égal. Tous les apparts sont constitués de la même manière parce qu'on a poussé au plus loin en fait, l'attribution des appartements pour que tout le monde pense collectif et pas qu'on commence à se plonger dans notre petit confort. On voulait aussi qu'il y ait les matériaux. On a choisi des matériaux assez chics. D'artisans de proximité, par exemple des plateaux béton qui normalement se font plutôt pour des villas, mais nous on a décidé là de faire travailler Form-C pour ça. Et puis du coup, au moment où on a dû attribuer les appartements, ils étaient quasiment finis quoi, et on a choisi chacun notre appartement. Et ça, c'est un énorme travail avec des outils hyper drôles. On a fait des règles de jeu quoi. On a constitué un jeu de plateau où chacun par équipe de typologie, on se retrouvait autour d'une table avec le plan et on posait nos pions pour réussir à... De toute manière, on ne pouvait pas être dans un choix qui ne nous convient pas à moitié, on va dire. Enfin, dans la moitié des choix qui nous conviennent le moins. Et après, on avait du coup différents rounds comme ça où on plaçait... donc, on avait des petits Lego, Playmobil, des petits trucs comme ça. Et on avait 6 gommettes numérotées de 1 à 6. Et puis après, on plaçait notre pion là où on préférait être. Et puis en fonction des tables, ça a pris plus ou moins de temps. Voilà.
Vous n'avez pas fait au tirage au sort ?
Alors, on a évidemment pensé au tirage au sort. On a évidemment pensé au tirage au sort. On a pensé aussi à un système de cotation de points par participation, justement. Mais ça pose un problème, puisque la participation, elle n'est pas forcément obligatoire pour tous. Parce que ça peut aussi discuter encore différemment entre Luciole et Équilibre, mais là-dessus on s'est mis en accord quand même. Mais du coup, non, en fait, le tirage au sort, c'est quelque chose qui revient souvent pour pas mal de choses, mais dans ce cas-là, comme je disais tout à l'heure à je sais plus qui, on a aussi anticipé un peu la gestion de conflits, ce qui demande quand même pas mal de choses, parce que bon, les conflits arrivent, on n'est pas tous d'accord, on est des individus différents tous, on essaye de s'accorder. Mais en gros, pour certains, le tirage au sort peut générer des frustrations, dites ou pas dites. Mais nous, en fait, dans ce choix-là, on devait justement questionner notre ego en plus de notre altruisme. Là où, en général, on penserait l'inverse. Là, on avait vachement besoin de retourner vers nous pour nous dire « Ok, est-ce que je suis bien avec ça ? Qu'est-ce que je veux vraiment, moi, en tant qu'individu ?» Pour ne pas planter ces petites graines d'envie, de regret. Et du coup, pour nous, le tirage au sort, dans ce cas-là, risquait... De frustrer des personnes.
D'accord.
Parce que là, il y avait du coup une sorte d'inégalité entre des personnes qui étaient dans le projet depuis 2005, 2008, ou des gens qui venaient d'arriver, donc 12 ans après. D'accord. Voilà.
D'accord. Donc ce projet, vous l'avez débuté en 2005.
Alors Équilibre a été créé en 2005, et pas tout le monde a été logé à Crécy. Il y a 13 logements. Donc il y avait des gens qui sont des primo coopérateurs d'Équilibre ici. Luciole a été créée en 2008, et la recherche de terrain a été commencée à ce moment-là. Et ici, le terrain, il a été attribué en 2011, je ne me trompe pas.
D'accord.
Donc, donc la rencontre des deux coopératives, elle s'est faite en 2011.
Et vous avez des espaces communs ?
Énormément d'espaces communs, ça c'est encore tout un autre sujet.
D'accord.
Mais on a le troisième étage où il y a la buanderie, on a des chambres d'amis, on a des chambres indépendantes qui s'annexent aux appartements. Dans les espaces saurés, vous avez vu la grande salle commune et puis la petite salle commune bibliothèque. Au sous-sol, vu qu'on a eu cette grande lutte pour ne pas avoir ces voitures obligatoires, On a énormément de choses qui remplacent les voitures au sous-sol. On a un économat, donc ouais, ça c'est peut-être intéressant aussi en lien. Donc dans notre économat, ben, on devait de toute manière pas tuer nos amis les verts, hein. Donc utiliser des produits adéquats dans nos eaux grises et on a commencé l'économat avec ça. Donc en fait, on a du stock de marques. Allez, je vais faire un peu de pub. Sonnette, Tournerève, enfin voilà. Ces gens qui font des choses autour de nous, qui sont hyper bien, qu'on a vachement envie de soutenir. Donc on a un stock en bas d'huile, on a les jus de pommes de je sais plus où.
Je veux savoir. De Genève.
Ouais, ouais. On a toutes les farines, voilà.
D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a une personne qui va gérer ou bien vous êtes...
Il y a plusieurs personnes qui gèrent ça. Donc il y a les personnes qui reçoivent les livraisons à 4h du mat, il y a les personnes qui s'occupent d'entretenir ça tout le temps, il y a les personnes qui font les commandes, il y a la personne qui fait la comptabilité, parce que nous on y va comme ça, on descend au sous-sol, on prend notre truc, on marque notre croix et puis c'est bon. Donc après c'est tous les 3 mois quelqu'un qui fait la compta de tout ça. Puis il y a toutes les bières aussi du Niton qu'on a à disposition de nous en bas.
Gratuitement.
Non, pas gratuitement.
Le village en fait.
Il y a un truc comme ça.
Donc il y a un magasin, ça veut dire au taxi.
Ouais, c'est ça. Et puis sinon, en bas, on a aussi une cave à vin, une cave à légumes. Donc là, on a pu choisir de laisser en terre battue pour ça. On a un énorme local bricolage. Il y a 2 menuiseries. Il y a pas mal de locaux de stockage, entre autres pour un mécanicien en vélo qui est dans l'immeuble. Et donc la brasserie, un dojo.
Ce sera judo et fitness.
Ouais, voilà. Pour ça, mais pour les ados et pour les enfants. Ça, c'est un peu. Les ados, ils ont leur place.
On dit quand il fait mauvais, ils sont tous
là-bas. Celui-là, il n'est pas encore là.
Il y a la pièce, mais il n'est pas encore installé.
Ouais, là, en fait, on a l'atelier local musique. L'atelier vient d'être fini. Local musique et dojo, c'est en cours. Parce que voilà, après, on a dû répartir un peu les projets.
On peut faire des cours de gym, des tapis comme ça.
Donc voilà pour les espaces communs. Et puis après encore l'autopartage, on partage les voitures. Donc il y a 6 voitures en partage.
Ah cool ça. Ah,
différentes grandeurs.
Ouais. Ça veut dire que chaque habitant de l'immeuble peut dire ouais moi j'ai 6 voitures.